Bonsoir. Inhumation des victimes des bombardements du site des déplacés de Mugunga à Goma. Une grande cérémonie a eu lieu mercredi 15 mai au stade de l'unité de Goma avant l'enterrement des victimes au niveau du cimetière de Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Prenant la parole, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella, représentant du chef de l'État à ses obsèques, a affirmé que la RDC allait poursuivre devant les juridictions tant nationales qu'internationales les auteurs de ces atrocités. Le 19 avril dernier, lors d'une visite à Goma, l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, a demandé au gouvernement congolais de porter plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales pour agression. Comment et dans quelle mesure la RDC peut-elle porter plainte contre les auteurs des crimes commis dans l'est de la RDC? Nous en parlons ce soir avec David Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur David Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Maître Rufin Louko, chercheur en droit et auteur d'une dizaine de publications en droit congolais de l'Université de Kinshasa, on me signale qu'il n'est pas en ligne, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Et Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi, l'expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir Madame Kébi, bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi que les auditeurs de Radio Kapi.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Les crimes de guerre perpétrés sous le sol congolais par le Rwanda ne restera pas impuni. C'est le message que le ministre des Droits humains a tenu à transmettre à la foule venue assister aux obsèques des victimes de bombardements du site des déplacés de Mugunga. Pour Fabrice Puella, le sang des Congolais n'est pas différent du sang des Ukrainiens. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Greta Lulendo.
Nous tenons, chers compatriotes du Nord Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvais augure puissent rester impunies. Un génocide congolais pour des intérêts économiques, génocide, est perpétré dans notre pays par le Rwanda. Ces crimes de guerre, comme celui du 3 mai à Mugunga, des crimes contre l'humanité, ont tous été documentés, en commençant par les rapports Mapping et plusieurs autres rapports pointant clairement la responsabilité du Rwanda pour leur agression en territoire congolais. Du reste, les États-Unis, dont nous saluons la véracité pour cette fois, en ayant clairement dénoncé ces bombes venues du Rwanda. Le sang congolais vaut le sang des Ukrainiens. Le sang des Congolais vaut le sang des Français, des Belges, des Américains, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, de partout ailleurs.
C'était là le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella Dadis Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. La RDC va poursuivre les auteurs des bombardements du camp du site des déplacés des Mugunga situé autour de Goma devant les tribunaux nationaux et juridictions internationales. Propos du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, je pense que c'est normal.
Professeur Dadi Salé.
Effectivement, comme on est... Oui, allô?
Oui, allez, je vous écoute, professeur Dadi Salé.
Vous m'entendez?
Oui, oui. Parlez un peu plus fort.
Oui, je disais que le discours est bon, Okay. Le discours est bon, mais cela étant, ce sont des actions concrètes que nous attendons. Donc nous commencerons par les hommages et nos condoléances à nous tous les Congolais, parce que nous avons déjà plus de 10 millions de morts. Nous supposons que nous sommes dans une situation de génocide de fait. Et j'aimerais me présenter encore autrement. Je suis aussi membre des AJPC et CAIEP, qui sont CAIEP, qui est le concepteur de ce terme génocide. Et que, effectivement, nos félicitations vont vers le gouvernement, ces gouvernements ou bien ces régimes qui a pu accepter au moins ce concept. Et même si, jusque-là, nous n'arrivons pas à déclarer et à faire des poursuites pour que nous puissions, sur le plan des droits, considérer que nous avons un génocide en main en République démocratique du Congo. Parce qu'en reconnaissant qu'il y a génocide en République démocratique du Congo d'une façon officielle, naturellement, il y aura des poursuites judiciaires et il y aura des réparations. Ça, c'est la moindre des choses. Mais malheureusement, jusque-là, la République démocratique du Congo, selon nos informations, n'arrive pas à prendre le cheval par les cornes, c'est-à-dire tout faire pour qu'il y ait reconnaissance officielle des génocides en République démocratique du Congo. Le fait de reconnaître cette terminologie, qui est une terminologie d'origine et de CAIEP, que nous saluons en passant, c'est très bien, génocide, génocide sur coût économique, mais où est ce génocide déclaré officiellement? Donc, hier, c'était un formidable événement. Nous-mêmes, nous sommes à Goma pour l'instant, c'était un formidable événement, mais malheureusement, nous pensons que le gouvernement ne prend pas les choses aussi au sérieux que la communauté internationale devait les prendre. Tenez, par exemple, tout le monde le dit en passant, la présence du chef de l'État, la présence du premier ministre ou bien de la première ministre, la présence du président du Sénat et de l'Assemblée nationale, donc... Toutes les grandes personnalités n'étaient pas là. Bien sûr, le ministre, trois ministres étaient là, mais c'est insuffisant. Si vous prenez, par exemple, des génocides du Rwanda, et qu'à un événement pareil, le président du Rwanda n'est pas là, ou bien ailleurs, je vous assure, ça serait une aberration. Donc, cela démontre que nous ne prenons pas ce mot génocide effectivement au sérieux, ou bien les gouvernements ne prennent pas ce mot génocide. J'ai pas vu même qu'à Kinshasa, on n'a pas senti même la grande importance est à Lubumbashi, la grande importance populaire, dis-moi, parce que dans des bureaux peut-être oui, de cet événement qui est un événement qui devait vraiment être aux yeux aussi de tout le monde comme un événement terrible où les Congolais se réveillent et veulent effectivement que les rapports mapping des Nations Unies soient mis en place et que tout ce que nous avons comme procès puisse être devant un peu toute la population. Il faut qu'on signale, par exemple, que nous avons des procès, selon les informations que je détiens, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha. On a aussi des procès à la Cour de justice de l'Eastern African Community. Mais c'est par rapport, selon les informations, aux violations des droits de l'homme et violations des frontières. Mais il ne s'agit pas de génocide. Donc, nous n'avons aucun procès dans ce sens-là. Donc, le ministre a bien parlé, mais on dit apparemment notre hymne national est dans le futur. On conjuguera tout dans le futur. Ça fait plus de 20 ans que nous vivons ces affres et que, ben, écoutez, nous devrions déjà prendre le coro par les cordes et personne ne peut le faire à notre place. Et c'est ce qu'a dit même l'ambassadeur de la Belgique. Donc, nous pensons que le gouvernement n'a plus à nous rappeler qu'il faudra, on va poursuivre les coupables. Non. Gouvernement, poursuivez déjà les coupables parce que nous sommes déjà en retard. Les coupables doivent être poursuivis le plus urgemment possible et que la justice doit faire son travail.
Alors, vous avez salué le discours. Vous avez salué le discours du ministre Fabrice Puella, mais vous dites que vous attendez des actes concrets. Quels sont ces actes concrets que vous attendez, par exemple?
Les actes concrets, ça serait déjà tout ça pour déclarer qu'il y a génocide en République démocratique du Congo. Je ne suis pas juriste, les juristes peuvent me corriger, mais sur le plan juridique, jusqu'à là, il n'y a pas génocide en République démocratique du Congo. Donc ça fait même une contradiction entre ce que le gouvernement est en train de faire, ça va, est en train de dire, et ce qui doit se faire. Donc nous, avec CAIEP, les concepteurs de ce concept de génocide, nous savons très bien que le premier acte, c'est la reconnaissance des génocides. Parce que quand il y a reconnaissance des génocides, on sous-entend immédiatement que la justice doit faire son travail pour trouver les coupables. On a des coupables au niveau international, au niveau régional, notamment beaucoup de gens du Rwanda, mais aussi au niveau local, parce qu'il y a beaucoup de collabos, surtout des autorités morales qui ont participé et facilité ces génocides. Je suis à la radio au Capi, je peux le dire sans embâche, il y a le maire de la ville de Bénin, ancien maire, qui avait pointé même certaines personnes, personnalités, autres personnalités. Mais ces personnalités n'ont jamais été inquiétées. Donc on a quand même certaines données qui sont là, mais personne n'est condamné. Les gens sont en train de mourir, plus de 10 millions de Congolais égorgés matin, midi, soir, et violés, violentés dans tous les sens, brûlés et des bombes. Et c'est connu, il y a des responsables. Ça, ce sont des actes qui doivent se faire avec la justice nationale, mais aussi avec la justice régionale et internationale.
Merci.
Donc, mes vérifications avec la justice régionale, c'est-à-dire la Cour africaine et la Cour de justice de l'EAC, jusque-là, on ne parle pas de génocide. Donc, il y a des actes qui ne sont pas posés.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Peut-on parler des génocides en RDC? Est-ce que le terme convient à tous ces actes, ces crimes commis en RDC par certains groupes armés, même le M23 appuyé par le Rwanda?
Bien, merci de m'avoir associé à ce débat, madame, et merci de la parole accordée. Et nous déplorons une fois de plus ces tueries et nous continuons à présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Et je voudrais d'abord relever une chose, c'est que nous saluons cet événement, les discours même du ministre, mais nous déplorons un fait, c'est que, vous savez, en politique et surtout dans les cas qui est le nôtre par rapport à cette situation, il y a des éléments très symboliques qui, malheureusement, n'ont pas devraient être mis en exergue pour réconforter davantage la population. Je crois que le professeur Dadi Salé est revenu là-dessus, la présence du chef de l'État, parce que il vous rappellera qu'il était en déplacement en dehors du pays, et il a dû même écourter son séjour en Europe pour venir au pays, n'est-ce pas? Et on attendait à ce niveau-là le président de la République prendre des mesures qui s'imposent face à cet acte de barbarie qui s'est manifesté à Goma. Malheureusement, il aurait dû même effectuer une visite de réconfort, pourquoi pas, dans cette province pour, n'est-ce pas, communier avec la population meurtrie. Et nous pensons que ces services, ces collaborateurs vont davantage, n'est-ce pas, y travailler pour que à de tels événements, eh bien, que la population se sente soutenue, proche, n'est-ce pas, de leurs autorités. Et nous pensons que ça va donner encore un message fort. Un autre élément, je crois que on ne le dira jamais assez. C'est plus de 2 décennies que la région de l'Est ou orientale de la RDC est en proie à cette instabilité interminable. Et que ce soit le rapport Mapping, que ce soit les différents rapports de Human Rights Watch ou des autres organisations nationales ou internationales œuvrant dans la région, ils ont clairement montré, n'est-ce pas, l'atrocité de ces tueries, et il y a lieu là d'indiquer qu'il y a crime. Il y a crime de guerre. Il y a même crime contre l'humanité dans la mesure où ces populations tuées, n'est-ce pas, entrent en ligne de compte de la catégorisation des crimes. Mais une chose, Madame Kelly, est d'identifier ces crimes. Une autre est, au niveau interne, je dois insister là-dessus, d'amener d'abord de reconnaître ces crimes, et ça doit être bien identifié, mais aussi d'amener les partenaires d'un côté et la communauté internationale de façon générale, à reconnaître aussi que ce qui se passe en RDC est un crime de génocide, un crime contre l'humanité. Parce que, je crois l'avoir dit, l'image d'un État, ce n'est pas seulement celle que l'État s'est fait d'elle-même, mais aussi celle que les autres ont de cet État. Or, pour que les autres États aient une image positive ou négative de ce que vous voulez, c'est par rapport aux efforts que vous vous faites, et au niveau interne et au niveau externe, pour les amener à vous suivre dans votre, n'est-ce pas, dans votre dialectique. Je crois que, puisque la RDC déjà mène des démarches ou va saisir la communauté internationale ou les instances juridiques internationales, je crois que c'est une bonne idée, c'est une bonne démarche, mais nous pensons que les efforts doivent être mis en exergue pour que ça ne se limite pas au niveau des déclarations. On l'a toujours eu, ou face à des défis, on se contente de faire des déclarations, des volontés, des intentions de bonne foi, mais au finish, ça devient une lettre morte, voyez-vous. Moi, je pense que lorsque vous regardez les différents discours qui ont été faits ou qui ont été dits par rapport à la situation à l'Est, eh bien, ce sont des lettres mortes, malheureusement. Je crois qu'une chose est de faire des déclarations. Nous saluons cette démarche, cette volonté de la République de porter plainte et de saisir les instances internationales. Une autre est d'aller jusqu'au bout afin que, effectivement, la communauté internationale reconnaisse ce génocide, comme c'est le cas au Rwanda où le président Kagame a réussi à faire avaler les génocides Tutsi à la communauté internationale. Et aujourd'hui, et on ne le dit pas assez, c'est pas seulement les Tutsi, il y a aussi quelques Hutus. Voyez-vous, ça c'est une démarche diplomatique que le président Kagame a réussi. Nous pensons qu'au niveau interne de la RDC, les différentes institutions chargées de la diplomatie vont mettre, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour que la communauté internationale reconnaisse que ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est bel et bien un génocide et qu'il y a lieu que la communauté internationale apporte son soutien, qu'elle apporte, que ce soit à l'Ukraine, à l'Israël ou au Rwanda, par rapport à ce qui se passe. Parce que l'ONU a été créée, effectivement, pour rétablir la sécurité et la paix au niveau international. Et que le Conseil de sécurité a cette mission-là lorsque le poste d'instabilité perdure. Mais on sent, c'est vrai, la communauté internationale a apporté un soutien, mais qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur des défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée.
Merci.
Je pense qu'il y a lieu qu'une dynamique interne se mette en place pour influencer la communauté internationale ou pour amener les partenaires de la RDC à emboîter les pas, à les soutenir et à condamner cela et surtout à faire que la paix et la sécurité reviennent. Une part des responsabilités reviennent à la RDC, mais une autre revient aux pays de la région et à la communauté internationale. Nous déplorons cette politique de deux poids deux mesures, nous déplorons cet attentisme de la communauté internationale, mais nous pensons que les efforts de part et d'autre doivent être faits pour condamner et arrêter ces génocides, parce que ça risque d'embraser toute la région. Ça risque d'embraser toute la région et ce sera plus tard qu'on aurait dû faire ce qu'on devrait faire avant, malheureusement.
Merci Frédéric Kabani, maître Rufanoukou. Est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne. Je suis en ligne, madame Kéline. Bon, si la communication s'arrêtait, vous m'excuserez, mais je suis en ligne.
D'accord. Alors hier, cet auditeur, Jacques Befunga, qui nous écrit depuis Kisangani dans la province de la Tchopo, pour lui, le gouvernement congolais ne sera pas en mesure de convaincre les juridictions internationales afin qu'on puisse condamner le Rwanda, car lui-même est aussi complice dans le sens où ses citoyens ont pris la commande des mouvements rebelles qui causent des atrocités dans la partie est de la RDC.
Voilà, donc merci. D'abord, en ce qui concerne les Goma, Beni, Ituri, il ne faut plus le présenter des condoléances. Ces mots-là ne suffisent pas. Il faut enlever ça du vocabulaire congolais. Ça ne suffit plus parce que cette province-là, ces agglomérations-là, ces parties-là du territoire national, eh bien, chaque jour. Donc, mes condoléances, ce n'est plus le mot. Nous avons assez souffert, les pays assez souffert, l'Est des pays. Et là, nous avons la preuve que pour la communauté internationale, il y a des peuples en Afrique centrale en particulier, que le Rwanda. Les Congolais, ce sont des mouches, des moustiques qui peuvent être écrasés à tout moment dans l'indifférence totale de tout le monde. C'est la situation que cette situation qui se passe, donc c'est le constat que cette situation qui se passe à l'est du pays communique à l'ensemble de toute la population nationale et même internationale avisée par rapport à ces mythismes et à cette indifférence totale de la communauté internationale. Donc, en ce qui concerne maintenant la conviction que les juridictions internationales peuvent accepter, oui ou non, un offre de marche, mais déjà, nous avions déjà saisi la CPI et nous avions retiré notre plainte. À l'époque, vous vous rappelez, une ministre de la Justice congolaise avait retiré notre plainte contre le Rwanda parce que tout simplement, pour des motifs plus ou moins personnels. Donc, il faut que nous soyons cohérents. Le génocide congolais a commencé depuis 96 jusqu'à ce jour. Les crimes sexuels, les violences sexuelles qui n'ont jamais été commises dans aucune partie du monde sont commises en termes de violence. Pendant plus de 25 ans en RDC, aucune sanction, aucun tribunal pénal international pour la RDC, pour ne fût-ce que répondre aux cris, à la misère des Congolais, de chercher justice auprès de toutes les instances internationales. Il y a eu le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone, tribunal pénal international pour le Rwanda, tribunal pénal international pour le Timor, tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Zaïre. Hier, aujourd'hui, la RDC crie chaque jour, personne ne nous écoute. Et ça fait très mal, ça fait très mal pour un peuple. On se demande encore pourquoi nous sommes d'ailleurs membres encore de ces organisations internationales qui ont décidé de ne pas nous écouter, qui ont décidé de considérer que nous ne méritons aucune considération, nos autorités non plus ne méritent aucune considération de cette communauté internationale. On se demande pourquoi nous perdons notre état à continuer à être membres de ces communautés internationales ou de ces instances internationales qui n'ont aucune considération à la cause congolaise. Et cette discrimination-là de deux poids, deux mesures entre les autres peuples et le nôtre, celui des Congolais, le cas des Congolais, mais de 100 personnes, doit nous pousser à tirer les leçons et ne pas donner des promesses. D'ailleurs, je me demande pourquoi, depuis qu'on a bombardé ce camp de déplacés, aucun mandat international lancé contre Nanga et tous les consorts. Le ministère de la Justice, ici, les gens cherchent à être des sénateurs et consorts ou des membres du gouvernement. Et tout le monde s'était. On n'a besoin de consulter personne pour lancer des mandats d'arrêt international contre tous les criminels. Maintenant que le gouvernement est convaincu, à la preuve que ceux qui ont lancé ces bombardements, ce sont les mouvements rebelles identifiés par leurs chefs. Tous ces animateurs-là de ce mouvement devaient recevoir des mandats d'arrêt internationaux de notre justice militaire, de notre justice de droit commun, pour alerter le monde entier que nous sommes vigilants et nous sommes choqués par ce qui se passe, parce que ce sont des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui ont été commis par des mouvements rebelles que le gouvernement avait déjà qualifié de terroristes. Qu'est-ce que nous entendons? Et pour ça aussi, il faut un conseil, il faut que des experts internationaux puissent nous aider à lancer des mandats d'arrêt international d'abord pour, n'est-ce pas, justifier que effectivement nous sommes victimes et que ces auteurs-là ne peuvent pas rester.
Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle M. Rufin Luco, la communauté internationale, comme vous le dites, ne prend pas au sérieux ce problème, ces crimes qui se passent en RDC?
Mais c'est parce que beaucoup de nos dirigeants eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Bon, regardez, par exemple, nous avons beaucoup trop de choses à dire. Combien nous dénonçons cet attentisme des dirigeants qui peut faire 2 ans, 3 ans, 100 000 ans, sans redevabilité. Qu'est-ce qu'il a fait du ministère tel, du ministère tel? On nous a promis que nous, comme on a bombardé nos concitoyens dans ces cas de Mugunga à Goma, eh bien, le ministère de la Défense va réagir. Et entre-temps, Rubaya est tombé. Où est la réaction? Le ministre de l'Intérieur a promis qu'il y aura une réaction foudroyante. Où est-elle? Rubaya est tombée. Notre armée ne réagit pas. Depuis Bounagana jusqu'à la tombée de Pasake, Kichanga, Ruchuru et consorts. Je peux citer toutes ces brigades qui sont parties être contrôlées par les rebelles. Où est la réaction de notre armée? Nous avons une armée forte, on le dit, on le répète. Où est sa réaction?
Donc c'est tout cet ensemble-là où nous comptons uniquement aller à ceux qui nous ont décidé hier, aujourd'hui à la SADC qui ne veut toujours pas agir. Combien d'années nous ferons pour attendre le soutien des voisins, le soutien des organisations régionales? Et nous nous organisons, mais c'est mieux que nous détournons chaque jour. Nous ne pouvons pas organiser une brigade ou même un bataillon comme celui de Mamadou Ndala pour protéger le territoire. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Il faut le dire dans quelle langue pour que les autorités... Regardez, tout le monde s'était dans le silence total, dans l'attentisme, parce que aujourd'hui, tout le monde cherche les postes, le repositionnement. On peut tirer 2 millions de Congolais, personne ne va parler parce que on s'accroche à être ceci, ministre cela, président de ceci, président de cela. Et tout le monde s'était qui devait défendre notre population abandonnée à elle-même. Et nous sommes réduits à enterrer que nos morts chaque fois. Nous allons enterrer nos morts. Les ministres sont venus pour enterrer nos morts. Mais pourquoi nous n'avons pas fait pour que Goma ne soit pas encerclé? Parce que c'est parce que Goma est encerclé que ces déplacés de guerre ont été donc accessible par des bombardements. Si nous avions contrôlé tout Mouchaki là-bas, il n'aurait passé ni au lac, ni à la ville de Saki, ni à la ville de Goma. Donc où se trouve notre armée? Où se trouvent nos défenseurs?
Le gouvernement congolais promet de poursuivre les auteurs des bombardements du site déplacé de Mugunga, situé à Goma au nord Kivu, devant les tribunaux nationaux et juridictions internationales. C'est déjà un pas, non, Maître Ruffin Louko?
On ne devait pas nous promettre ça, on devait déjà agir. Donc, ça dit poursuivre, ça veut dire lancer des mandats d'arrêt, lancer des enquêtes. Si vous vérifiez ici à Kinshasa, quelles sont les enquêtes qui sont déjà lancées? C'est le ministre des droits humains qui les promet à Goma. Mais à Kinshasa, qu'est-ce qu'on fait à Kinshasa pour que nous ayons la preuve que quelque chose est en train de se faire? Ces promesses-là, il y en a combien qu'on a donné? C'est des milliers de promesses qu'on donne chaque jour. Lorsqu'il y a un drame, on a donné des promesses qu'on va poursuivre. Ceux qui ont fait tomber Bunagana, ils sont où aujourd'hui? On va poursuivre ceux qui ont fait tomber Rutshuru, ils sont où aujourd'hui? On va poursuivre ceux qui ont fait tomber Mouchaki. Même si maintenant notre justice militaire n'est occupée qu'à condamner les lâches qui fuient devant les ennemis. Est-ce que nous ne pouvons pas tirer de leçons de tout ça? Les rebelles doivent être poursuivis parce que pour parmi eux, il y a des Congolais. Nanga doit sentir. Mais pourquoi les députés attendent à proposer une loi qui considère que tout celui qui rejoint les rébellions, on arrache tous ses biens? Un projet de loi comme ça ne peut pas dissuader les gens. C'est-à-dire, dès que vous, parce que ça vient d'un festival, ça vient l'apologie, oh maintenant je suis à Bunagana, j'appartiens à l'AFC, je ne sais pas quoi. Mais s'il y a une loi qui dit que vous rejoignez les mouvements rebelles, on arrache tous vos biens. Donc tous vos biens sont pris et mis à la disposition du trésor public. Maison, compte en banque, école, hôtel, et tout ce que vous avez construit, dans la plupart des cas par les biens mal acquis, que si une loi comme ça, qu'attend les députés, qu'attend les sénateurs, qu'attend ces gens-là pour faire des choses qui intéressent. Si c'est une loi proposée par l'UNICEF, l'ISAID ou le PNUD, ça passe comme boîte à la poste. Mais si c'est une loi qui concerne la protection du territoire, regardez, demandez à tous les députés du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, de Maniema, du Nord Katanga, qui parle en ce qui concerne ces drames, les crimes internationaux, les déplacés, les réfugiés sont les gens les plus vulnérables, ils sont les plus protégés par les compassions de Genève. Et personne ne parle parce que ça arrive à des mouches, à des moustiques. Nous sommes révoltés de voir cet attentisme-là et des dirigeants qui ne réagissent. Et pour la jouissance, en ce qui concerne la protection de la population, nous réagissons le plus lentement possible. Et à la limite, c'est pour nous faire voir.
On va donner la parole aux auditeurs qui veulent aussi intervenir, donner leurs avis hein, sur l'annonce du gouvernement de poursuivre les auteurs des bombardements du camp ou du site des déplacés des Mugunga à Goma au nord Kivu devant les tribunaux nationaux et juridictions internationales. On va se rendre à Kisangani dans la province de la Tshopo. Voilà. Pour écouter cet auditeur.
C'est Maître Dodé Tokinda depuis Kisangani dans la Tshopo. Cette proposition n'est pas debout à mon avis. À ce jour, la bande de Gaza est envahie par l'armée israélienne avec un bilan lourd de plus de 30 000 morts contre 1454 Israéliens tués lorsque l'armée gazaouite a attaqué l'Israël. Plus d'une année depuis que la Russie fait payer à l'Ukraine le prix de sa collaboration avec l'OTAN. Mais pour la RDC, et le gouvernement et la Belgique passent plutôt à la saisine des juridictions internationales d'ordre judiciaire. Cela constitue justement une option propre aux États faibles, parce que je sais, même la Belgique ne pourrait recourir à une telle option si elle était elle aussi agressée par un État voisin. Pour dire que je suis tout à fait contre cette option.
Professeur Dadi Salé.
Professeur. Oui, maître a raison, parce que ça rencontre effectivement notre fait. Oui, allô?
Allez-y, on vous écoute, professeur.
Maître a raison, ça rencontre effectivement. Oui, ça rencontre notre philosophie Kujitegemea, Tomilukela, Tuso Sangemo, Kituji, Kebela. Ce qui fait que c'est vrai, on peut compter sur la justice internationale. Mais avant tout, nous devrions compter sur notre propre justice. C'est là où ça devait commencer et qu'on n'a pas besoin de promesses. Mais je comprends effectivement qu'il y a des difficultés, il y a plus de paroles que de mots, parce qu'il y a l'aspect politique dans tout cela. Je suis un peu dur, mais je vais quand même le dire. Tant que le chef de l'État, quel que soit le chef de l'État, par exemple, actuel, est entouré de plus de leaders de 1 plus 4, ça serait difficile que les juridictions puissent prendre les taureaux par les cordes. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de leaders congolais de 1 plus, après 1 plus 4, ce sont soit responsables ou bien co-responsables. Responsables directs ou bien indirects. Ce qui s'est passé à Makobo, là, ce qui s'est passé à Kishishe, à Beni, à Tindikin, à Mugunga, et un peu partout, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de responsables qui ont été utilisés, surtout par les Rwandais et d'autres instances, mais ce sont des Congolais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont encore au pouvoir, excusez-moi de préciser ce point-là. Parce que je vous ai dit, je ne suis pas des noms, mais je précise quand même, parce qu'il y a des accusations presque officielles, mais qui ne vont pas dans le sens juridique. Donc, ces gens-là qui entourent le chef de l'État, naturellement, font tout pour que nous ne puissions pas prendre des choses au sérieux, pour que nous ne puissions pas faire des poursuites sérieusement, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes seront impliqués. Donc, il y a un point politique qui, malheureusement, nous avons, comme le président l'a si bien dit, nous avons un problème avec notre justice. Ce qui fait que notre justice est un peu plus caporalisée un peu par les politiciens. Donc les politiciens restent un peu des rois. Et la population continue de souffrir. C'est la raison pour laquelle on a aussi beaucoup de rébellions. Parce que vous savez mieux que moi que quand il y a des tueries, plus de 10 millions quand même, c'est pas 10 personnes, 10 millions. Tous les rapports qui sont sur table, certaines personnes parlent de 4 000, de 6 000, 7 000, quelle que soit la discussion, on est au-delà de 1 million. C'est terrible, ça ne peut pas passer inaperçu. Et la plupart des fois, vous allez lire des rapports, non, des personnes non autrement identifiées, etc. Donc, nous avons un peu un problème de classe politique, un problème de leadership qui ne veut pas prendre la chose au sérieux. Je vais rien de l'expliquer. Je pense que les conseillers du chef de l'État, l'homme a le conseiller, et même le gouvernement. Donc, il n'a pas compris l'importance de cet événement qui s'est passé hier à Goma. C'était un événement de taille, comme un de nos co-débatteurs l'a dit. Si nous-mêmes, nous ne nous prenons pas au sérieux, comment voulez-vous que la communauté internationale, qui du reste, peut aussi avoir une main, ça va, dans ces génocides? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui commence en République démocratique du Congo, en grande partie, c'est après le génocide du Rwanda, ça va, et que c'est la communauté internationale qui a demandé que les réfugiés sortant du Rwanda après le génocide puissent entrer avec des armes non contrôlées, et les gens n'étaient pas du tout contrôlés. Donc il y a des responsabilités qui sont partagées, mais malheureusement ce sont les Congolais qui en pâtissent, et que le leadership congolais apparemment va qu'il vaille, ne veut pas prendre ses propres responsabilités. Ce qui fait que l'événement d'hier, je parie, c'est bien que Radio Okapi puisse en parler encore, mais dans le psychique de la population congolaise, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, un peu partout, c'est un fait anodin. Les gens sont occupés encore une fois à qui va être président de l'Assemblée, qui va être encore ministre, etc. Ils sont totalement divisés dans ça. Un peu des choses un peu plus inutiles, plutôt que ce qui intéresse un peu plus la population congolaise. Ça, c'est un événement hautement politique. Si le président était bien conseillé, il allait comprendre que c'est un événement hautement politique. Les Rwandais en ont bénéficié pendant des années. Tout le monde avait un peu de la compassion envers les Rwandais. Bon, voilà, ils ont été tués, voilà, il y a eu génocide. Nous ne savons pas utiliser les armes qui sont déjà là. D'une façon négative, oui, on comprend, mais ce sont quand même des armes diplomatiques. Donc, notre diplomatie a failli par rapport à ces points-là. Nous pouvons les démontrer à tout le monde qui veut. Ce sont des résultats. Déclarons qu'il y a génocide d'abord à l'interne, faisons des actes forts, ouvrons nous-mêmes nos propres juridictions, commençons à condamner celui qu'on va condamner, et que tous les leaderships congolais, non seulement les politiciens, je parle des églises, majorité, opposition, quand il y a génocide quand même, j'ai vécu longtemps à Beni, je suis à Goma pour l'instant, donc les zones, j'étais un peu à Ituri, donc je sais ce qui se passe là-bas. On égorge n'importe qui. On n'égorge pas les gens parce qu'ils sont de tels partis politiques, etc. Non, absolument pas.
Après Kisangani, on va aller à Kananga, au Kasai Occidental, pour écouter cet autre auditeur.
Guy Kambouyi Mbaza, à Kananga, au Kasai Central. Le gouvernement congolais parle truchement du ministère de la Justice, les organisations de la société civile, les représentants d'une communauté peuvent saisir la Cour pénale internationale et d'autres juridictions au niveau régional. C'est sur le plan démocratique, mais sur le plan des rapports faits, le gouvernement congolais avait promis la réciprocité des rapports faits, mais ne pas le faire, c'est une lâcheté dans la mesure où la justice internationale n'inspire pas confiance.
Frédéric Amani, réaction.
Bien, je pense que ce qu'il faut noter, c'est vrai, l'auditeur s'inquiète de cet attentisme auquel nous avons fait allusion, où on se contente des discours, des propositions, des intentions de bonne foi, mais on ne passe pas à l'acte malheureusement, et c'est là, profite à l'ennemi. Alors que en géostratégie, dans la conduite de la guerre, je crois que la capacité d'un acteur, d'un adversaire à surprendre l'ennemi est aussi une bonne stratégie tactique. Je crois que puisque l'ennemi a surpris la RDC, il faudrait que la RDC aussi soit en mesure de surprendre l'ennemi au lieu de se contenter de donner des discours ou des intentions de bonne foi qui malheureusement c'est la population qui continue à en payer le prix. Moi je pense que au-delà des discours, des intentions de bonne foi par rapport à la riposte, il y a lieu ici, aujourd'hui, de mettre en place les institutions du pays à tous les niveaux, et même les organisations de la société civile et les confessions religieuses doivent mettre en place ce qu'on appellerait le patriotisme des crises. Et ce patriotisme des crises va engendrer, si vous voulez bien, une citoyenneté des crises. Face à ces défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée, eh bien, quelle est cette unité qui doit se mettre autour de la crise pour d'abord mettre de côté nos égos, nos appartenances politiques et penser république? Et je crois que cela aussi va dépendre de la manière dont les dirigeants, les responsables des institutions vont se comporter vis-à-vis de cette crise, mais aussi vis-à-vis de la population. Il y a un élément important là-dessus qui doit être mis en exergue, le patriotisme des crises et la citoyenneté des crises. Nous pensons que cette fois-ci, et la RDC d'un côté, en saisissant les instances internationales, elles seront réceptives à la demande congolaise, mais il y a lieu ici de remettre en cause les alliances congolaises vis-à-vis de ses partenaires par rapport à ce qui se passe. Je l'ai dit et je le répète, un grand travail doit être fait en interne. Voilà pourquoi, Madame Kelly, nous insistons sur le fait qu'il y a lieu de passer à ce que nous qualifions la théorie de la réorganisation interne. Elle est très importante, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, la réorganisation interne est plus importante pour aider, n'est-ce pas, les institutions internes à mettre en place ce qu'on qualifie une intelligence stratégique face à ces défis pour aller de l'avant.
Maître Rufa Luko, on va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Bukavu au sud Kivu.
Accent Kishimamou Olivier depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Il est possible pour la RDC de porter plainte contre les auteurs des crimes commis dans l'est du pays en engageant des poursuites devant les juridictions nationales d'abord. De là, impliquerait une enquête approfondie pour identifier les responsables des atrocités et réunir les preuves nécessaires pour les poursuivre en justice. De plus, il faut noter également que la RDC peut également saisir les instances judiciaires internationales telles que la Cour pénale internationale des pays en sigle pour les crimes les plus graves qui relèvent de sa compétence, comme les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre perpétrés dans la partie est du pays, dans des petits belirettes en fait. Cela nécessiterait une coopération internationale pour rassembler les preuves et obtenir des mandats d'arrêt contre les auteurs présumés. Alors, pour couronner le tout, moi je pense que la RDC peut également explorer des possibilités de poursuites devant la Cour pénale internationale et voire même la Cour internationale de justice, qui est la CIG, pour des violations du droit international telles que les non-respect des frontières internationales, comme mentionné dans le cas du Rwanda. Cela nécessiterait une approche beaucoup plus diplomatique et une expertise juridique pour présenter un cas solide devant la Cour internationale de justice.
Maître Aluko, brièvement, qu'est-ce que vous pensez de son point de vue?
Même si tu ne me restes plus beaucoup de minutes, ça fait 59, voilà. Et donc, je peux résumer que si le gouvernement Mme Toulouka entre en fonction, la première obligation, la première urgence, c'est justice à la population victime de l'Est du pays. S'il ne marque pas dans son programme la justice à la population de l'Est du pays, ça sera encore un autre mandat de 5 ans pour rien pour la population de l'Est. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez que la population de l'Est est plus revendicative que la population de d'autres parties du territoire. Pourquoi? Et ça signifie tout simplement pour les dirigeants, beaucoup commencent à voir d'aller à l'extérieur du pays parce que c'est trop redevable, là-bas l'exigence est trop élevée, là-bas elle est très haute. Et Madame Toulouka, nous verrons combien de tours elle fera pour arriver au Kivu, parce qu'au Kivu et en Ituri, les populations sont très revendicatives parce qu'elles ont beaucoup trop souffert. Madame la Première ministre qui a été nommée, nous attendons du vous et du chef de l'État que la priorité soit la justice pour les populations de l'Est du pays. Ça fait 30 ans de non-justice et nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale. Elle nous a décidé, ça fait 30 ans, elle nous a décidé par sa présence de prolonger sans la paix. Et c'est uniquement le gouvernement et notre armée réorganisée, le moyen de tout ce qui tourne au ministère des Finances et consorts, qu'on organise une brigade pour la protection du territoire et qu'on renforce les capacités des Wazalendo à l'est du pays pour protéger. Et on ne doit pas demander aux Wazalendo de quitter leur territoire. Là, c'est leur terre. Ils doivent rester là-bas, renforcer en capacité sur les liens pour défendre notre territoire.
Alors, vous dites qu'on ne peut pas compter sur la communauté internationale, voilà, mais la RDC pourrait, dans quelle mesure, hein, comment elle peut porter plainte contre les auteurs des crimes commis dans l'est de la RDC? Qu'est-ce qu'il faut pour que le cri des Congolais ou le cri de la RDC soit entendu?
C'est aller seulement déposer par notre ministre de la Justice à la CPI déposer la plainte. Déposer la plainte, ça ne demande pas l'appui de la communauté internationale pour déposer plainte. Il suffit seulement que nous allions à la CPI déposer plainte, à la CIJ, la Cour internationale de justice, nous déposer plainte par rapport à toutes ces violations de notre intégrité. Et les juridictions là, je ne parle que des DD qui sont les plus compétentes, et nous entendons une juridiction spéciale, pénale spéciale, pour. Et ça, nous pouvons créer nous-mêmes. Nous ne pouvons plus attendre. Nous avons une expérience avec la communauté internationale, ça fait 30 ans. Nous avions fait encore, après l'indépendance, 7 ans avec la communauté internationale. C'était toujours le même résultat. Nous ne pouvons plus compter sur la communauté internationale et la population de ce pays a raison là-dessus.
On espère Sakana, qui nous écrit depuis la page Facebook de Radio Kapi, pense que si la RDC attend une justice internationale pour suivre les criminels, elle attendra pendant longtemps. Professeur Dadi Salé.
Si à l'unanimité, nous constatons avec vous et avec tout le monde que tous les Congolais, oui, allô?
On vous écoute, professeur.
Allô?
Professeur, on vous écoute. Okay. Vous êtes en ligne.
À l'unanimité, comme vous êtes en train de le voir et que si vous passez dans des rues. Oui. Si à l'unanimité, on peut constater que tous les Congolais sont au moins d'accord qu'il faut que la justice puisse faire son travail. Alors, pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Et pourtant, le gouvernement doit être au service de la population. Ce sont nos travailleurs. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parfois, ils se font des idées dans leur bureau, mais je comprends effectivement, et qu'ils ne suivent pas la voix de la population. Tenez par exemple que nous avons eu un député, honorable maître Constant Moutamba, qui au moins a pris le courage de saisir la CPI. Un individu. Mais le pays ne le fait pas, donc ce ne sont pas les éléments pour saisir qui manquent, ou bien qui manqueraient. C'est plutôt une question stratégique, une question de leadership, une question où on ne veut pas résoudre le vrai problème, parce que sans justice, nous sommes tous d'accord que les tueries ne vont pas finir. La guerre ne va pas finir. Chacun peut continuer à créer ses rébellions comme il veut. Chacun peut tuer, brûler des femmes et violer comme il veut. Sans qu'il y ait justice, je vous assure, on continuera à être tué. Mais cela revient à ce que nous étions en train de dire. Et tout le monde est encore d'accord avec notre philosophie que j'étais de mer. Nous devons nous prendre en charge. Il faudra que la population exige au gouvernement de faire ces actes-là. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous attendons, mais ça ne vient pas. Et que ça doit faire du bruit. Je me suis renseigné, effectivement, et que ces actes-là qui sont posés, même si ce n'est pas pour des génocides, mais c'est quand même pour violation des droits de l'homme, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha. Mais ce n'est pas connu. Le peuple ne connaît pas. Je pense que j'ai posé la question à un éminent juriste, un professeur, qui m'a dit, mais il devait faire ce point-là avec Patrick Mouyaya ici à Goma, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'espace. Ben, je pense qu'il est livré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui est important. Le peuple doit être informé de peu de démarches et de démarches qui se passent. Ça doit faire du bruit. Tout le monde doit savoir que les auteurs des crimes qui sont en train de se passer en République démocratique du Congo, plus de 10 millions de personnes sont en train de vouloir être, comment est-ce qu'on peut dire, vite condamnés et que les coupables doivent être arrêtés. Et qu'effectivement, les victimes doivent s'attendre à une justice, à être indemnisées, même psychologiquement, etc. Parce que quand nous parlons des génocostes, nous parlons des génocides pour cause économique. Là, je félicite encore une fois Kayeb. Ça signifie que le Rwanda, ou bien des gens, ont volé plus de 50 milliards, 100 milliards, parce qu'on ne sait pas trop estimer, il n'y a pas encore rien de travail sérieux, 100 milliards de dollars de pillage et de crimes. On tue 10 millions de personnes. Merci. Et on vole le minerai, ça s'appelle minerai de sang et tout le reste, c'est documenté par tout le monde. Donc ces gens-là doivent être punis et ça doit se faire immédiatement. On ne sait même pas, le président de la République attend quoi? Ça devait être une priorité des priorités et faire en sorte que cela puisse être un outil pour que nous puissions gagner la guerre, parce qu'au moins on aura du soutien. Ça, c'est sûr et certain, et faire en sorte effectivement que tout le monde puisse respecter la République démocratique du Congo et qu'il n'y ait plus jamais de tuerie dans ce sens-là. Faire
merci,
c'est encourager les génocidaires.
Merci, Dadi Salé. Frédéric Amani, vous allez aussi conclure, mais avant cela, il y a Valérien Kissembe qui pense que l'annonce de la plainte du gouvernement est une distraction. Les criminels sont connus et bien identifiés. En plus, ils circulent librement sans être inquiétés. Les autorités doivent prendre le courage de décourager tous ces criminels pour avoir un peu de considération à l'international.
Bien, je concède ces propos à son auteur, à l'auditeur, tout en saluant son point de vue, il est libre de mettre cela. Mais ce qu'il faut dire en répondant à cela et en concluant, c'est que, Madame Kelly, je pense qu'il est plus que temps aussi, on ne le dit pas assez, que les institutions du pays soient mises en place. L'Assemblée nationale doit être installée, les gouvernements doivent sortir pour, n'est-ce pas, s'occuper du jour au jour des questions urgentes du pays, et les assemblées provinciales aussi doivent être installées pour que le pays tourne normalement. Alors, je crois qu'il y a, en relation internationale, il y a une catégorie qu'on appelle les personnalités de grande carrière comme des acteurs. Et ces personnalités, avec l'État congolais, peuvent faire un lobby en faveur de ce qui se passe à l'Est pour inviter les institutions internationales à être réceptives. Je fais allusion ici à tout seigneur, tout honneur, le docteur Mukwege, qui s'est toujours, d'ailleurs le prix Nobel, qui a toujours milité pour que le tribunal pénal pour la RDC soit mis en place,
au regard du rapport mapping, il y a, n'est-ce pas, les cardinal Lambongo et d'autres personnalités peuvent être associés pour réfléchir. Pardon?
Il faut conclure, Frédéric Amani.
Allô?
J'ai dit, il faut conclure.
Ah oui. En conclusion, nous insistons sur le fait que la réorganisation interne doit être mise en place et on ne doit pas oublier que les rapports de force aussi doit être mis en exergue entre la RDC et les États qui les combattent, mais aussi entre la RDC et la communauté internationale. Et enfin, nous pensons qu'il est plus que temps que la théorie la diplomatie des contournements peut aussi aider la RDC à faire face à ces crises à répétition. Cette diplomatie voudrait que la RDC s'appuie sur les alliés de ses ennemis. Ça peut aussi apporter un plus. Et enfin, nous pensons qu'il est plus que temps que les ministères régaliens, le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, doit avoir des hommes et des collaborateurs experts en la matière pour aider la République à faire face à ces défis. Et nous pensons que la citoyenneté de crise doit être démise autour des autorités congolaises pour faire face aussi à cette crise et qui malheureusement continue à déstabiliser l'est de la RDC.
Merci Frédéric Kamani. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Mimi Kindou, Billy Betou, Jonathan Falani, Clément Chimanga, je n'oublie pas Donna Madimba et Hervé Boka, voilà. Martin Sebouchangwe a supervisé cette émission, présentation et coordination. Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.